Le congrès et salon des professionnels de l'immobilier FNAIM, les 29 et 30 novembre 2021, au Carrousel du Louvre, et le 1er décembre pour une journée 100% digitale, en partenariat avec Bien Ici, Galian et Airpro.com sur Radio Immo.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette seconde journée du salon FNAIM qui fait suite au congrès FNAIM. D'ailleurs l'Assemblée Générale s'est tenue dimanche, les candidats à la présidentielle sont en train de circuler dans le salon justement pour parler de la politique du logement, puisque dans 6 mois il n'aura échappé à personne que nous allons assister à une campagne présidentielle un peu singulière. On va passer, il est un peu plus de 10h10 aujourd'hui, on va passer cette table ronde si vous voulez bien sur la garantie de loyer impayé, et Dieu sait que la garantie de loyer impayé en ce moment avec cette sortie d'une crise sanitaire dont on ne connaît pas tout à fait l'issue peut nous permettre de nous interroger, et je vous propose les amis, chers auditeurs, qu'on passe un petit peu en revue ce qu'est la garantie de loyer impayé, on fait un peu de pédagogie et du rôle crucial que ça a dans notre pays. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, il est coutumier des plateaux sur Radio Immo, il nous a soutenu d'ailleurs depuis le début, Alain Ledemey, le directeur général de Galian est avec nous. Bonjour Alain.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Bien.
Ben, je suis ravi de vous voir.
Comme Galian.
Voilà. Je suis ravi de vous voir. D'ailleurs, on a fait un atelier hier avec Wilfried de Vincenzi sur les cyberattaques. On a parlé justement du contrat que propose Galian contre les cyberattaques. Ça a été un très très beau succès. Là, on va parler de la garantie de loyer impayé. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, il est le fondateur de EveryCheck. Johan Zibit avec nous. Bonjour.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Comment ça va Johan ?
Super.
C'est la première fois sur Radio Immo, je crois.
Première fois, oui, je crois.
On est ravis d'être avec vous.
Mais pas ravis. La dernière, Sylvain.
On a plein de choses à raconter.
Vous savez, Alain Ledemey est un prophète en général. Donc, il faut toujours l'écouter avec beaucoup d'attention.
Je suis.
Quelqu'un qu'on connaît bien, il est notre avocat préféré. En fait, il a carrément son rond de serviette sur Radio Immo. C'est un avocat nouvelle génération. Il est le spécialiste du droit de la copropriété. C'est un des plus gros cabinets d'avocats français spécialiste du droit de la copropriété et du droit immobilier. Manuel Raison est avec nous.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va Manuel ?
Très très bien.
Alors, on va parler un petit peu de... Je vais commencer par vous Alain. On aurait pu se poser la question avec la crise sanitaire, des problématiques de contentieux et autres. Et on voit bien que la garantie de loyer impayé, on va dire, elle a une importance majeure. Dans un premier temps, si vous voulez bien Alain, j'aimerais qu'on explique à nos auditeurs pourquoi la garantie de loyer payé, elle a un rôle crucial dans l'équilibre du rapport payeur-locataire.
C'est un dispositif crucial parce que c'est la sécurité absolue d'un règlement des loyers en cas d'impayé. Et ça, trop souvent, on l'oublie, et souvent, quand on investit auprès d'un promoteur ou auprès d'un professionnel, on voit le côté, je dirais, magique de l'investissement locatif. Et on a raison parce que c'est d'abord ça, c'est d'abord la perspective d'un revenu pour les années qui viennent, mais c'est aussi, comme dans, pour tout investissement, la probabilité qu'il se passe quelque chose qu'on n'a pas prévu. Et par exemple, la défaillance du locataire, parce que le locataire, comme tout un chacun, peut faire face à des difficultés dans sa vie quotidienne. Il peut perdre son emploi, il peut divorcer, il peut rencontrer des difficultés familiales diverses. Et à un moment donné, sa solvabilité peut être mise à mal. Soit qu'il ne puisse plus payer son loyer, soit que pour des raisons diverses et variées, il ne veuille plus. Donc là, entre en jeu, évidemment, la garantie de loyer impayé, qui est une certitude absolue pour le propriétaire d'être réglé des impayés s'il y en a. Et je voulais dire qu'à l'occasion de cette table ronde, cette garantie est encore trop méconnue, elle n'est pas assez proposée aux investisseurs, et il faut vraiment que lors de cette table ronde, je crois, on peut se fixer un objectif, c'est celui de la faire connaître et de convaincre qu'on ne peut pas décemment investir dans l'immobilier sans s'être assuré contre le risque d'impayé.
Alors Alain, on vient de vivre 2 années, on n'en est pas tout à fait sorti, mais on a vécu 2 années de crise sanitaire majeurs qui ont mis à genoux l'économie de la planète. On voit bien que la résilience immobilière est là, elle est présente. D'ailleurs, l'année 2021 va être un record incroyable de transactions, avec un peu plus d'1,2 million de transactions. Quelles sont les premières tendances, Alain, et les premiers retours côté assureur en matière d'impayé de loyer ? Est-ce qu'il y a si on fait un, à date, comme ça, un petit bilan, est-ce que vous dites, ben moi, le patron de Gallian, je peux vous dire que voilà, après 2 années, on a tel et tel stade. Est-ce que ce qu'on a craint est arrivé ou pas ?
Alors, il y avait une grande inquiétude des pouvoirs publics. On a été interrogé régulièrement par le ministère du Logement sur le sujet. On a même fourni des éléments statistiques. On était en lien permanent avec nos sociétaires, hein, tous professionnels de l'immobilier et gérants d'immeubles, gérants locatifs. Et on a mis en place un observatoire, remonté d'informations de leur part. Nos auditeurs, parce que vous savez qu'on réalise 2000 audits dans les cabinets immobiliers qu'on garantit, nos auditeurs récupèrent aussi de l'information collectée auprès des cabinets immobiliers. Et je dois dire que, en dernier lieu, puisque nous sommes finalement ceux qui sommes appelés en dernier, nous, assureurs de garantie de loyer impayé, on regardait très près les courbes de déclaration de sinistre. En réalité, aujourd'hui, les courbes sont des courbes plates. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que avant,
y a pas eu de...
pendant la crise, on est dans une situation tout à fait stable. Il n'y a pas de recrudescence d'impayés, donc pas de recrudescence de sinistres en matière locative. Donc aujourd'hui, ce que j'en déduis, moi, c'est que la solvabilité des locataires n'a pas été mise à mal et que le dispositif gouvernemental, les dispositifs gouvernementaux mis en place ont parfaitement fonctionné. Donc aujourd'hui, stabilité. C'est pas pour autant que demain il n'y aura pas de risque, c'est pas pour autant qu'il faut se dire rien ne se passera plus maintenant, c'est pas du tout ça. Mais pour répondre à votre question, en l'état actuel des choses, stabilité.
Alors, il y a eu un rapport, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, le rapport de Nicolas Desmoulins sur l'expulsion qui a été publié, présenté au Parlement fin janvier 2021, qui montre qu'il y a une croissance effectivement des expulsions en fonction. Mais vous avez raison, globalement, sur la stabilité, le poste loyer dans la dépense, hein, dans la charge, il n'y a pas eu de variation. Mais je voudrais compléter ma question, si vous voulez bien. Est-ce que notre système institutionnel a permis d'impacter ou de réduire l'impact qu'aurait pu avoir cette crise ? Est-ce que le système institutionnel de protection du consommateur, mais aussi de l'accompagnement que vous faites, que les propriétaires font, que les administrateurs de biens font, a permis de prévenir un peu ce qui aurait pu être un peu plus important ?
Certainement, je pense que le système français est bien construit, qu'il y a différents amortisseurs un peu partout. Vous avez posé une question qui est importante et mis en avant un point, c'est celui du rôle des administrateurs de biens. Je crois que ce qui fait la différence entre un logement géré par un particulier, souvent d'ailleurs dans des conditions qui ne sont pas conformes aux aux réglementations, et la situation concernant un administrateur de biens est radicalement différente. Un administrateur de biens va d'abord avoir une vision, je dirais, beaucoup plus objective, je pense, de la solvabilité du locataire et va savoir, en cas de problème, l'accompagner. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser les choses filer, on va vite essayer de comprendre ce qui se passe et puis on va vite essayer de l'accompagner, de mettre en place des plans d'apurement, ce qui souvent n'est pas mis en place avec les particuliers. De facto, on arrive à bien encadrer la situation d'impayé quand elle est gérée par un professionnel. Quand c'est un particulier, ça part dans tous les sens. D'une part parce que le propriétaire qui gère lui-même souvent n'est pas informé de l'ensemble des textes qui régissent les règles entre bailleurs et locataires, d'une part. Et puis, il faut le dire aussi, parfois les locataires profitent de la situation voyant qu'il y a une certaine faiblesse de la part du propriétaire qui n'est pas complètement fait de ce qui se passe. Donc le rôle, je dirais, l'amortisseur principal pour moi est le rôle de l'administrateur de biens qui vraiment fait la différence dans le contentieux locatif ou en tout cas dans l'impayé dans un premier temps qui peut devenir ensuite un contentieux locatif.
Question complémentaire, je voudrais aussi avoir quels sont les retours que vous avez perçus côté pro, notamment sur la mise en place de solutions pour sécuriser les loyers de leurs mandants, quoi. Est-ce que vous observez sur les 2 dernières années que, compte tenu de la crise sanitaire, est-ce que vous observez que vos clients, les ADB, où il y a plus de clients ou des personnes qui prennent conscience qu'eux, finalement, ils ont pris des mesures dans ce qui apparaissait une crise ou pas ? Est-ce que vous avez observé ça ?
Non, je veux dire que non. Enfin, deux choses. Les vieilles pratiques demeurent, en particulier la caution personne physique, qui est le pire des mécanismes qui existe quand il n'est pas adossé par ailleurs à une garantie de loyer impayé.
Bien sûr.
C'est d'ailleurs une réflexion qui est en cours au ministère du Logement aujourd'hui, qui me paraît saine, Madame Boutin avait supprimé, ministre à l'époque, avait supprimé la possibilité de cumuler caution et garantie des loyers impayés. C'est une erreur, à mon avis, fondamentale. On pourra y revenir, si vous voulez, tout à l'heure. Et donc, ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même une montée, petit à petit, de la garantie des loyers impayés. Et ça, c'est important. On l'observe d'ailleurs avec notre partenaire Evricek. Et on observe que ça commence à rentrer dans les mœurs. Ceci étant dit, on n'en est pas encore à ce qu'on devrait être. Et le réflexe aujourd'hui n'est pas garantie de loyer impayé. Il faut reconnaître aussi une forme de concurrence, de mécanismes gratuits, enfin gratuits,
oui, oui,
qui sont quand même financés par les cotisations des entreprises, telles que Visale.
Voilà. Hein, avec que des conditions
quand même. Que je ne critique pas, oui, sur le volet, je dirais, social. Parce que Visale fait... couvre un risque que nous, assureurs, ne pouvons pas, probablement pas couvrir. Si Visale couvre la partie du risque que nous ne pouvons pas couvrir et que nous venons ensuite en complément, tout va bien. Et j'observe qu'aujourd'hui, les choses se mettent en place progressivement dans cette direction-là. Donc on est très vigilants sur deux choses, nous, assureurs de loyers impayés, sur la possibilité, nous l'espérons, d'un cumul futur rapide de la caution personne physique, qui seule ne vaut pas grand-chose, mais qui a un sens avec une garantie de loyer impayé. Et il faut qu'on soit beaucoup plus, comment dirais-je, allant dans la promotion de la garantie des loyers impayés, ce que nous ne faisons pas encore. Alors, ce que nous essayons de convaincre nos sociétaires, administrateurs de biens, d'y aller, parce qu'ils ne perdent pas leur âme. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ne perdent pas leur âme en proposant une garantie de loyer impayé, bien au contraire. Ils conservent une relation de qualité avec le mandant et je dirais ils apportent un service qui est absolument indispensable,
oui,
absolument indispensable aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer louer un logement, c'est, l'exemple n'est pas tout à fait, je dirais, valable dans la mesure où la garantie, la multirisque habitation est obligatoire, au moins pour couvrir le risque responsabilité civile. Mais est-ce qu'on imagine louer un logement aujourd'hui sans s'assurer quand on est locataire contre les risques qu'on peut générer en utilisant ce logement? Est-ce qu'on peut imaginer être investisseur locatif sans avoir une garantie de loyer impayé? C'est une question que je pose et c'est une réponse que nous apportons avec la GLI en essayant de convaincre que c'est la solution.
Ça partit, d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai lu un article récemment et dans une émission sur BFM que j'ai le plaisir d'animer deux fois par mois, on a parlé de gestion d'actifs. Et donc, l'élément, c'est intéressant parce qu'il y avait un asset manager qui était là qui disait l'élément garanti de loyer impayé fait partie de la gestion de l'actif.
Évidemment.
Et donc, c'est aussi, mais à double ressort, c'est-à-dire que c'est aussi une sécurité pour le locataire. C'est-à-dire que ça sécurise la relation bailleur-privé locataire et donc du coup l'administrateur de biens a un rôle central. Alors vous avez souhaité, Alain, externaliser le service, qu'on peut dire service agrément, on peut le dire comme ça?
Oui, oui, tout à fait.
Voilà, service agrément à Johan Zibi qui est le fondateur de Evricek.
Je ne suis pas tout seul, hein, heureusement.
Alors vous êtes cofondateur.
Non, oui, non, bien sûr, mais je disais je ne suis pas tout seul à faire tous les agréments.
Oui, non.
Ça ferait beaucoup.
Bien évidemment.
Absolument, je suis cofondateur.
Voilà, donc vous avez créé, on peut dire quoi? Vous êtes un start-upper
On commence à être des vieux start-upper. On a 6 ans.
Ah bon, ça
maintenant.
Va. Ça va.
Donc on est encore,
ça
on est. En,
ça va, ça va.
Voilà, on est en maternelle. On peut,
vous avez,
on
vous, voilà, vous
sort.
Êtes encore.
On sort du lac.
Alors, vous avez créé Evricek.
Absolument.
Alors, prenez bien le micro, mais justement, vous allez nous expliquer, d'abord pour nos auditeurs, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est quoi Evricek?
Alors, Evricek, moi avant d'arriver en France, j'ai travaillé aux États-Unis et en Angleterre, et dans ces pays, il y a le background check, donc la vérification d'antécédents avant la prise de décision. Et il y a le background check.
Quand vous dites antécédents ?
Antécédents, le background check, de manière générale, ça peut aller de tout au tout. Mais appliqué au RH et appliqué à l'immobilier.
D'accord, au RH par exemple, parce que j'ai un vrai diplôme.
Exactement, donc notre première activité, c'est la vérification de CV avant embauche. Donc on a un service qui existe là, qui était notre premier produit lancé à la création. On a un peu moins de 200 clients aujourd'hui sur cette activité-là. Et on a développé, et en partenariat avec Galian, il y a à peu près 3 ans, une solution complètement sur mesure et by design, mmh, pour sécuriser la prise de décision et pour aider les ADB à voir un peu plus loin et enlever un peu l'affectif dans la prise de décision. Mmh. Donc on a développé un service qui s'appelle le service agrément, qui est directement intégré et implémenté dans les systèmes Galian, mmh, aujourd'hui, et uniquement chez Galian. pour lesquels on va donc recevoir les dossiers, faire une étude de la complétude, qui est un vrai sujet, parce que beaucoup de dossiers ne sont pas complets. Donc y a, c'est un vrai débat, et puis on bataille dur avec les administrateurs de biens pour y arriver. On progresse évidemment là-dessus. Donc on va faire la complétude, on va faire un tri du dossier, enlever les informations qu'on n'a pas besoin de voir. Parce que beaucoup de dossiers manquent d'informations et parfois ils en ont trop. Donc il est aussi important de faire le tri et être en accord avec les lois là-dessus. Ensuite on va faire un scoring avec les règles de l'assureur, qui sont en général assez proches des règles du marché, qui sont somme toute parfois même un peu plus allégées que les règles du marché. Le marché va vers 33% de taux d'effort quand l'assureur va vers 35%, donc c'est même un peu plus clément. Donc on va faire ce contrôle là et ensuite si le dossier passe le scoring, on va faire une vérification complète en appelant les employeurs, en appelant les écoles et en validant la véracité des dossiers. Et pour compléter
tout,
alors vos
propos en respectant
plutôt, pardon,
le domaine de la vie privée,
absolument,
et
pas,
les dispositifs de protection des données.
Évidemment, donc on est en parfait accord avec CNIL d'abord.
Parce que la France est très sensible là-dessus par rapport à l'Angleterre, comparer.
Une autorisation est collectée chez le candidat locataire en amont, pour quelle que soit la recherche.
Mais quand vous appelez, excusez-moi, pour qu'on comprenne bien, j'appelle l'employeur. Dans le dossier, il y a les fiches de paye, d'accord. Bon. D'ailleurs, tous les documents ne sont pas forcément autorisés à être demandés. Hein,
absolument.
Précise.
Oui, oui, bien sûr. Hein,
par exemple,
les RIB, on les enlève des dossiers.
Par exemple, mais il y a aussi des éléments qui sont d'ordre fiscaux. Il y en a aussi qui sont liés, par exemple, aux dossiers sanitaires. D'accord. La CNIL, d'ailleurs, a une jurisprudence très, très précise là-dessus. Et vous êtes plus. Non, mais c'est mieux en disant.
Bien sûr.
J'appelle l'employeur. Bonjour. Est-ce que monsieur Durand-Marcel bosse bien chez vous?
Absolument.
Est-ce que vous allez jusqu'à lui demander?
Ce qu'il y a quoi, pardon ?
Est-ce que vous allez jusqu'à lui demander s'il gagne bien le salaire qu'il y a sur la fiche de paye ?
Absolument.
Et ça, on peut le faire, c'est légal.
Ça, on peut le faire, c'est légal. À partir du moment où une autorisation est collectée en amont, on appelle, en fait, avec l'autorisation du candidat.
Oui,
Et d'ailleurs, c'est une question
Je vous autorise à vérifier tous les éléments que je vous ai dit.
Absolument.
C'est déclaratif.
Et c'est un sujet intéressant parce que si j'appelais une entreprise pour dire « Bonjour, parlez-moi de Stéphane, combien il gagne ?» Personne ne me répondrait.
Bah non.
Si, en revanche, que ce soit pour un CV ou un dossier immobilier, si je viens avec des informations, je viens les valider. Je dis bonjour, Stéphane nous a dit qu'il travaille chez vous depuis telle date, qu'il n'est pas en période d'essai, qu'il n'est pas démissionnaire, qu'il gagne tant d'argent. Est-ce que vous pouvez nous valider? Oui, on valide. Et hélas, oui. C'est pas toujours la validation. Et pour rejoindre vos propos un peu plus tôt sur la crise et la post-crise, si on y arrive.
Est-ce qu'il y a une augmentation?
On a eu une augmentation, nous, de fraude, pour le coup.
Est-ce qu'on a un pourcentage d'augmentation?
Je pense qu'on était à plus 15%.
15%?
Ouais, plus 15%. Et là, sur les 6 derniers mois, ça augmente encore. Parce que, augmentation de la précarité, et puis les gens veulent se replacer, veulent trouver un job. Et donc, il y a des augmentations des fraudes. Et on est très vigilant, évidemment. Et on fait donc un filtre pour la DB en 24 heures, complet, de cycle complet, entre la réception du dossier et la délivrance d'un agrément.
Alors, quand vous dites 15% d'augmentation, c'est des dossiers falsifiés?
Falsifié.
C'est quoi la falsification?
Alors, ça va de... C'est parfois très surprenant. C'est parfois très surprenant.
Est-ce qu'il y a des perles? On va non, dire mais... des trucs un peu drôles.
Alors,
parfois.
On a des perles, évidemment. Mais avant les perles, on a surtout, avec la digitalisation, une augmentation des procédés de fraude. Vous achetez sur Snapchat aujourd'hui, le jeune peut acheter, je dis le jeune parce que c'est plutôt un public jeune, va acheter un dossier sur Snapchat qui est tout prêt. Et pour vous donner un exemple, on a des sociétés, nous, on reçoit des fiches de paye. Des fiches de paye.
Il y a des mecs qui vendent des dossiers tout prêts pour falsifier.
Je vous invite à faire l'exercice, vous allez sur Google et vous tapez faux dossier. Vous allez voir que vous allez trouver des trucs.
C'est énorme.
Sans même chercher sur les dark web
c'est
ou autre
énorme.
Chose.
C'est énorme.
Et sur, on a des dossiers, on a des sociétés qui reviennent 20, 30, 40 fois. Et quand on les appelle, on dit on n'a jamais fait ce dossier, on n'a jamais connu cette personne. On a des dossiers qui circulent avec nos marques. Donc il y a du vol de dossiers qui se fait beaucoup aujourd'hui. Des annonceurs sur les sites d'annonces vont dire « Avant de vous recevoir, envoyez-moi votre dossier. » Donc ils vont récupérer le dossier et en faire un faux, en faire un double. Vous avez sur Internet, vous pouvez acheter des dossiers très facilement.
C'est quoi? C'est de l'usurpation d'identité?
L'usurpation d'identité. Donc c'est quelque chose qui revient souvent. Donc on a, dans nos perles, on a des marques, des sociétés. Dès que ça arrive, on sait que c'est un faux. On a des cas absolument incroyables. On a eu un cas qui est, moi, mon préféré, pour le coup. On a appelé une entreprise et on leur a dit « Voilà, est-ce qu'ils travaillent bien chez vous ?» On a une attestation employeur qui date d'hier. Et ils ont dit « Ah bah, voilà, merci de nous appeler, vous nous rendez service parce que une personne est rentrée par effraction dans nos bureaux hier, a cassé une fenêtre pour rentrer et a volé des tampons de l'entreprise. » Et donc cette personne avait volé les tampons pour faire un faux dossier. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de systèmes de vérification d'informations qui en fait sont incomparables, parce que vous avez du contrôle graphique qui va voir que le cumul des jours de congés payés sont bons ou autre.
Est-ce que vous avez une méthode alors physique, vous appelez?
Absolument.
C'est pas un robot qui va faire
non,
ça?
Non, c'est pas un robot.
Et au niveau de la technologie, est-ce que vous avez des technologies qui détectent des problèmes de graphisme, des fausses informations, etc.? Parce que pour vérifier tous les dossiers, ça va vous demander nombre de ressources humaines incroyable.
Alors, on pourrait, parce que c'est pas très compliqué. Il y a des prestataires qui le font. Nous, on veut pas le faire. On veut pas le faire parce que un dossier ne ressemble pas à son voisin. Et parfois, y a une ligne dans le contrat de travail qui va dire que une raison particulière qui fait que la période d'essai est prolongée si cet élément arrive. Ouais. Et ça, vous pouvez pas le détecter graphiquement. C'est impossible. Il y a parfois des erreurs dans les fiches de paye qui sont de bonne foi. Vous avez parfois des comptables qui sont pas les meilleurs du monde. Ils vont faire une erreur dans le cumul du revenu imposable ou des congés payés. Et
d'accord.
On peut pas prendre le risque, nous, de géopardiser les chances d'un candidat à avoir un appartement parce que le robot s'est trompé. Donc nous, on a misé sur la qualité.
Ok.
Et c'est vraiment un vrai focus pour nous.
Et donc, alors, ok, on comprend l'importance, etc. C'est sûr que ça peut susciter tout un débat, même,
on
va dire, presque philosophique, hein, sur la nécessité de contrôler. Est-ce qu'on est dans les sociétés du contrôle, dans la société où de la délation, de la société où il faut parler?
C'est dans l'ordre des choses.
Non, mais,
ouais, c'est intéressant,
mais on le comprend. On le comprend. Le climat est anxiogène pour les bailleurs, et Dieu sait que la complexité normative ne les a pas beaucoup aidés, donc on peut comprendre que les précautions soient prises. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Mais c'est bien de poser la question. Faites-nous rigoler un peu là. Est-ce qu'il n'y a pas une perle? Un truc bien drôle.
On en a un qui nous a fait rire il n'y a pas longtemps.
Ouais.
C'est quelqu'un qui a fait un faux dossier, assistante qui a fait un faux dossier, et a changé le nom sur un avis d'imposition qui n'était pas le sien, et c'était celui de son patron.
Pardon ?
Et elle avait piqué l'avis d'imposition de son patron, et avait photoshopé, avait mis son nom à elle. Sauf que nous, on a des systèmes de vérification, et c'est le nom du patron qui est revenu. Donc là, c'était un peu gênant, on ne sait pas comment s'en sortir. Mais on en a tous les jours.
Alors, question. Moi qui suis un ancien du barreau, comme mon ami Emmanuel, il y a longtemps, mais c'est un faux. C'est un faux.
Oui, c'est un
produire
faux,
des faux. Pénalement, Emmanuel.
C'est pénalement répréhensible, c'est une infraction pénale, bien sûr.
On est d'accord. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là?
Nous, on va informer.
Mais est-ce qu'il y a des poursuites? Parfois.
Pas par notre biais.
Alain,
non, c'est pas la mission, c'est pas l'objet.
Vous laissez tomber, quoi.
Non, on a.
Vous prenez pas le dossier, bien sûr.
Bien entendu, mais on n'est pas là pour faire de la dénonciation,
Mais sur le principe, c'est quand même produire des faux.
Évidemment, c'est hautement critiquable. Et il y a un problème de morale, évidemment, et d'éthique qui se pose. Mais ça n'est pas le rôle d'Evrychek, c'est pas le rôle de Galian que de dénoncer ces situations-là. Je pense qu'il y a des services de l'État pour ça, et on les laisse faire.
Bien sûr.
Si je peux rajouter un petit point important, il ne faut pas voir notre service comme une solution de contrôle et un peu dure. Il faut voir plutôt comme une optimisation des ressources. C'est-à-dire, l'administrateur de biens, il a envie que la personne qu'il a choisie, parce que nous, on n'a que les champions, pour le coup, qui nous ont envoyés, il a envie que cette personne arrive dans le bien et il fasse sa vie, il a fait son travail. On est là pour valoriser ces éléments-là. Parfois, la complétude n'est pas suffisante. Parfois, le scoring a été mal calculé. Parfois, le dossier est même faux. Mais c'est une conséquence. Notre mission première, c'est d'optimiser le temps de l'assureur, de baisser la sinistralité, donc augmenter les indicateurs techniques, et valoriser tout le monde. Valoriser aussi le candidat qui a accepté de signer l'autorisation, qui a joué le jeu. Donc le faire le plus vite possible pour qu'il baisse plus vite possible dans le bien. Donc c'est vraiment une mission qui est dans ce sens-là. Le faux, les contrôles, les gens qu'on bloque, c'est des conséquences.
Alors, on a bien compris le système, ça s'appelle Evrychek.
Absolument.
Donc vous êtes mandaté pour contrôler et évaluer les dossiers, on comprend leur importance. Manuel Raison, côté juridique, quels sont les risques, pour les pros de l'immobilier dans la sélection des locataires? On voit bien qu'aujourd'hui, les professionnels de l'immobilier, en fait, s'inquiètent un peu d'un système normatif qui pèse sur eux, qu'on voit bien que le statut du bailleur privé n'est pas un sujet réglé encore aujourd'hui. On va dire, voilà, sur le plan juridique, quelles sont les bonnes mesures qu'on pourrait conseiller aux professionnels de l'immobilier aujourd'hui pour bien prendre en charge la gestion de l'actif de leurs clients?
Bah, c'est effectivement, c'est comme disait M. Alain Demet tout à l'heure, c'est-à-dire on parlait du côté enchanté de l'investissement, du côté magique pour reprendre vos termes. C'est vrai que ce côté magique existe en immobilier, mais peut devenir un cauchemar lorsque on est dans une situation avec un locataire qui reste dans les lieux, qui ne paye pas. Voilà.
Et il y a des propriétaires qui ont... Voilà.
Lorsqu'on n'a pas ce type de produit, effectivement, d'assurance GLI, aujourd'hui, à mon sens, c'est un vrai... On parlait des ADB, ça fait partie de son devoir de conseil que de proposer et de faire comprendre ce que c'est que la GLI. Et à défaut, les conséquences. Parce que devoir de conseil, c'est dire, effectivement, aux propriétaires bailleurs, voilà, il existe ce produit, mais aussi, dans l'hypothèse où vous viendrez à ne pas le prendre, voici les conséquences. Et les conséquences, c'est quoi? Ce sont les procédures qui sont longues. On a un commandement de payer, un délai de 2 mois, une notification préfecture, une assignation par huissier à faire, une date en fonction effectivement des tribunaux qui peut être prise à plus ou moins long terme, un process qui peut être de 8 mois, 1 an, ensuite un délibéré à 1 mois, ensuite on va tomber dans la trêve hivernale qui va effectivement, sauf exception de squat, de résidence principale notamment, mais qui va être de 5 mois, voire en période Covid qui a été effectivement étendue. Et ensuite, vous avez un titre qui vous permet donc un jugement de condamner le locataire à payer son loyer et à partir. Mais c'est pas pour autant qu'avec ce titre, il va être exécuté. C'est-à-dire que vous avez deux choses. Vous avez l'absence de paiement dans une hypothèse où effectivement la solvabilité n'aurait pas été bien vérifiée. Donc ça veut dire que on va avoir toutes les peines du monde à faire exécuter la décision pour le paiement du loyer. Et puis, ce qui est encore plus important, je dirais, c'est faire sortir le locataire. Donc là, on a un titre qui nous permet de venir avec éventuellement les forces de police, un serrurier pour effectivement expulser. Mais encore une fois, là aussi, par exemple à Paris, en fonction des commissariats dans lesquels et des arrondissements dans lesquels votre bien se situe, vous n'allez pas avoir l'assistance de la force publique. Et donc, vous allez passer dans une autre procédure, qui est une procédure administrative, finalement, où vous allez dire à l'État, mais vous ne m'avez pas adjoint les services effectivement des forces de police. Et donc, j'ai un préjudice parce que j'ai encore mon locataire qui reste dans les lieux. Donc, ça peut effectivement être un cauchemar. D'où l'intérêt d'avoir le type de produit GLI qui prenne en charge complètement, effectivement, toute cette procédure et de sorte à ce que ce soit neutre pour le propriétaire qui n'ait pas à subir toutes les affres de la procédure, de l'impayé, effectivement, de l'absence d'exécution, soit du départ, soit de paiement du loyer.
Alors, c'est très clair. Pour le propriétaire... on va dire en tant que lui-même, dans sa gestion, dans son rapport aux professionnels, qu'est-ce qu'il en est pour lui des procédures? Comment vous percevez justement le propriétaire aujourd'hui? Est-ce qu'il a par exemple, est-ce que vous observez qu'il y a une vraie fébrilité du point de vue propriétaire lui-même? Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez constaté par exemple un élargissement des délais de procédure par exemple? Alors, compte tenu de la situation sanitaire aussi, etc., est-ce qu'il y a des délais plus longs? Alors on voit bien que le gouvernement, avec le rapport Desmoulins, a voulu clairement protéger les locataires. Hein, Nicolas Desmoulins, Haute-Garonne, pardon, voilà, Nicolas Desmoulins, dans son rapport, il dit la chose suivante. En fait, la trêve hivernale, c'est une trêve annuelle, quoi, pour être très clair. Enfin, je caricature un peu. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que le gouvernement, et ça peut s'entrer dans une logique d'ailleurs, à une logique volontariste de protection des consommateurs, au détriment, il faut le dire, des propriétaires privés. Est-ce que vous le constatez ça ou pas?
Ah bah oui, on peut le constater évidemment. Les trêves hivernales, alors effectivement ce député qui expliquait que c'est une trêve annuelle, on a pu avoir des délais de 5 mois, des parce délais en période Covid de 7 mois.
Voilà, on n'est plus maître de son bien.
Ah bah non, et effectivement, il faut sortir de la caricature. On n'a pas que le propriétaire bailleur richissime qui a tout un parc immobilier.
Bien sûr.
On a des gens dont la retraite, effectivement la perception du loyer permet d'alimenter la retraite. On n'est pas forcément dans la caricature. Et donc aujourd'hui, on a effectivement une vraie problématique qui peut être de procédures qui vont effectivement s'allonger, ce qu'on a pu décrire tout à l'heure. Et ce qui font qu'à mon sens, aujourd'hui, il est complètement inconsidéré, on peut le dire, de ne pas prendre ce type d'assurance de loyer impayé qui permet tout simplement pour des sommes qui sont somme toute assez modiques au regard de la perception du loyer, d'être complètement assuré sur ces problématiques-là.
Alain, justement, on le voit, enfin, on peut le dire sans caricaturer. On voit bien qu'il y a un état protecteur du consommateur, du locataire, au détriment du propriétaire. Est-ce que vous le constatez ou pas? Ou c'est plus nuancé que ça?
On peut le dire comme ça, évidemment, mais enfin, moi je suis pas dans des logiques d'opposition du propriétaire, du locataire, parce que la vie parfois peut être compliquée et on peut avoir de vrais problèmes de solvabilité. Et évidemment, il y a aussi des situations. Il y a aussi des situations où il y a des fraudeurs. Hein, on l'a vu et Johan Zibi nous le disait tout à l'heure. Donc, bien entendu, à certains moments, il y a ces risques qui se manifestent. Et s'ils se manifestent dans un cadre normal, je crois que on doit se dire que c'est un risque inhérent à l'investissement immobilier. Tout comme quand on achète un titre en bourse, on a un risque de dévalorisation de ce titre en bourse. C'est comme ça, c'est inhérent. Comment peut-on se couvrir contre ce risque? Eh bien, en ce qui concerne le rendement d'un actif immobilier, c'est la garantie de loyer impayé. Je crois que c'est extrêmement simple. Emmanuel Raison disait tout à l'heure, on accompagne toute la procédure, mais surtout, on permet aux propriétaires, pendant toute cette période, je dirais, compliquée, de continuer à percevoir son loyer et donc à rembourser son emprunt. Parce que, Emmanuel Raison le disait tout à l'heure, évidemment, il y a des situations où on n'est pas richissime. On se constitue un capital pour la retraite, on va acheter un bien, peut-être deux si on a de la chance. En face de cette acquisition, il y a un emprunt, donc il y a un endettement, donc il y a une échéance de prêt remboursé chaque mois. Et en face de ce remboursement de crédit, il y a une partie qui est couverte par le loyer. Une partie simplement. Donc il y a un effort d'épargne aussi, je dirais, spontané de l'investisseur. Donc il faut bien se dire que c'est un jeu d'équilibre subtil. Hein. Je fais ce choix d'investir. D'ailleurs, je vais payer des droits de mutation. Je vais payer des impôts sur les loyers que je vais recevoir.
Sur la fiscalité, bien sûr.
Donc toute la fiscalité autour de l'immobilier qu'on néglige, et quand on entend dire l'immobilier c'est un investissement passif et ça ne rapporte à personne, c'est absolument faux. Il suffit de regarder l'importance de l'immobilier dans le budget de l'État, et évidemment. Donc pour en revenir à la question, je crois que il est important de toujours préserver cet équilibre, et dans une logique où finalement un locataire est intéressé par un logement et un propriétaire est là pour le louer et finalement fournit ou remplit ce besoin qui existe de tout un chacun d'avoir un toit au-dessus de la tête, la garantie de loyer impayé est une solution qui va sécuriser, voilà.
Tout simplement. Alain, vous plaidez pour qu'il y ait une plus grande prise de conscience, bien évidemment, des professionnels à élargir, parce que quand on prend le nombre de professionnels, il y a encore beaucoup de développement à faire sur la souscription de contrats pour les administrateurs de biens. Comment on fait pour vous trouver sur Internet?
Everycheck.com.
Voilà, everycheck.com, tout simplement. Le bon sujet pour contrôler, évaluer et sécuriser. Hein, surtout.
Alors, je le rappelle, Everycheck est notre partenaire. Et aujourd'hui, Everycheck travaille avec Galian. C'est dans ce cadre-là.
Absolument.
Que.
Donc, c'est simple. Donc, il y a un tiercé gagnant, finalement. L'administrateur de biens, le contrat de Galian.
C'est bien dit.
Et la sécurité avec Everycheck, finalement. C'est le grand chelem, si on peut dire les choses comme ça, pour le faire. Donc, Galian, bien évidemment, c'est l'assureur référent qui permet de sécuriser les pour vous, administrateur de biens, et je ne peux que vous recommander de souscrire bien évidemment les éléments. Et d'ailleurs, il y a toute une gamme de produits, de prestations fournies par Galian. On en a parlé aussi hier. Voilà, Galian, vous avez l'adresse de l'URL sur le podcast. Merci Manuel Raison.
Merci toi.
Avocat Raison, le cabinet aujourd'hui qui est on peut le dire, le plus grand spécialiste de la copropriété, mais pas que, parce que vous êtes aussi animateur, vous faites des chroniques régulièrement sur Radio Immo, et vous écrivez aussi des articles comme quoi les avocats aujourd'hui, nouvelle génération, font à peu près tout ce qu'on vend. Donc je pense que c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez ajouter, Alain, à l'aube d'une politique qui va s'annoncer avec les présidentielles et de l'année qui vient? Est-ce que vous avez, voilà,
Oui, il faut que les politiques n'oublient pas l'importance de l'immobilier, parce que comme on le dit de manière, je dirais, très commune,
voilà,
nous avons tous besoin d'un toit au-dessus de la tête, qu'on soit propriétaire ou locataire. Et je pense que on néglige trop l'investisseur locatif qui finalement procure des solutions sur le marché. On le voit comme étant celui qui demain veut tirer absolument profit de son investissement. Mmh. Évidemment, on n'investit pas pour perdre de l'argent, mais on n'est pas non plus forcément, quand on est un bailleur privé, un buveur de sang de prolétaire, comme auraient dit certains par le passé. Non, je crois qu'il faut raison garder, et c'est très important d'avoir cette approche. Et je dirais que au plan politique, il faut que se rendre compte que les équilibres dont on parlait tout à l'heure doivent être maintenus, et que cette réflexion en cours sur le cumul de la caution personne physique et la garantie des loyers impayés, qui a été détruite par Madame Boutin il y a quelques années, doit être rétablie, non pas pour la poser comme étant une obligation,
bien sûr.
Mais comme étant une faculté qui va finalement élargir le spectre et favoriser l'entrée des locataires dans les logements, parce que ça peut être aussi ça, parfois, que d'apporter une caution personne physique. C'est ce que l'engagement du locataire, et de l'autre côté, quand il le peut, hein, parce qu'évidemment, tout le caractère discriminatoire, etc., tout ça, on le sait, et on ne veut pas non plus l'imposer. Et puis, de l'autre côté, cet équilibre avec le propriétaire qui, lui, choisit de s'assurer et paye une cotisation mensuellement pour couvrir son risque. Voilà, c'est un équilibre intelligent.
Merci beaucoup, Alain. Merci, Johan Zibi.
Merci beaucoup, merci.
Cofondateur de EveryCheck, merci beaucoup. Merci, Alain Ledemain, directeur général de Galian. Vous êtes toujours le bienvenu sur Radio Immo. Et bien évidemment, notre avocat préféré,
merci,
Manuel Raison, du cabinet Raison, spécialiste du droit de la copropriété. On enchaîne avec nos programmes.
Le congrès et salon des professionnels de l'immobilier FNAIM, les 29 et 30 novembre 2021, au Carrousel du Louvre. Et le 1er décembre, pour une journée 100% digitale, en partenariat avec Bien Ici, Galian et Airpro.com sur Radio Immo.